Bienvenue au Polysécur épisode spécial. Je suis accompagné de Alexis.
Bonjour.
Et on va parler aujourd'hui du rapport que ISET a produit, justement le Threat Report qui a été produit. On n'abordera pas l'ensemble parce qu'il est quand même assez gros, mais on va aborder 5 points qui sont très intéressants de ce rapport-là, dont certains points que ton équipe a eu à travailler dessus. Donc, on va commencer par le Watering Hole qui est à ma foi malheureusement pas suffisamment traité dans les médias, qu'on devrait justement en parler davantage parce qu'il porte des risques très importants, mais en même temps très ciblés, d'où le fait qu'on en parle probablement plus.
Oui, exactement. En fait, le Watering Hole, une attaque de ce type-là, ça s'appelle aussi Strategic Web Compromise. L'idée derrière ce type d'attaque-là, c'est l'attaquant va commencer par prendre le contrôle de différents sites web qui sont susceptibles d'être visités par les victimes, qui sont plutôt par leur cible, leur vraie cible réelle. Et ensuite, ils vont placer du code malveillant sur ces sites web-là et attendre que leur cible s'y connecte. Et à ce moment-là, ils vont tenter une infection pour prendre le contrôle des vraies cibles en bout de ligne. Et ça n'arrive pas très souvent qu'il y en a de ce type d'attaque-là. Et c'est difficile à détecter parce que c'est des attaques qui sont très, très précises. Les attaquants, ils savent exactement qu'ils veulent aller les chercher puis ils vont servir le code malveillant seulement, justement, à leur vraie cible. Donc, ça peut être basé sur l'emplacement géographique, sur le type de navigateur, la langue qui est configurée dans le système et tout ça. Donc, ça passe souvent sous le radar. Et c'est pas moins dangereux parce que, justement, l'attaque commence par des sites web qui sont complètement légitimes. Alors, on entend beaucoup les gens dire « Moi, je suis en sécurité là, quand je navigue, je vais juste visiter là, des sites propres, hein, mes sites de nouvelles. Je ne m'en vais pas voir d'autres sites avec peut-être des logiciels piratés ou d'autres trucs. » Mais ce n'est pas vraiment vrai qu'on est en sécurité seulement si on va sur des sites légitimes.
Oui, effectivement. Puis c'est ça, tout l'intérêt de cette chose-là, c'est effectivement beaucoup plus ciblé. Donc, pourquoi on en parle beaucoup moins? Ton équipe a travaillé spécifiquement sur un cas, je crois.
Oui, en fait, on remonte à il y a même quelques années, on a monté un système. C'est mon équipe de Montréal là, qui a monté ça. Mathieu Faou, pour ne pas le nommer, qui a monté un système qui c'est comme un crawler, OK, qui va aller inspecter des sites web. On en a énormément et il va aller créer une espèce de baseline sur des sites web qui pourraient être utilisés par des attaquants. Là, on va penser à des sites web gouvernementaux, des sites web d'organisations dans les médias, par exemple. Et on va essayer de détecter si, à un moment précis dans le temps, le contenu du site web a changé d'une façon malveillante ou potentiellement malveillante. Et grâce à ce système-là, on a découvert une campagne assez vaste là, d'attaques par Watering Hole qui visait principalement des gens au Yémen. Les sites web qui ont été compromis ou pour lesquels il y a eu des faux sites, des copies là, qui ont été mises sur pied. Là, on parle des sites comme du ministère des Affaires étrangères de l'Iran, une grosse compagnie dans l'aérospatiale en Italie. Donc, c'est vraiment des gros morceaux. Et ultimement, ben, leur but hein, dans cette attaque-là, c'était d'attendre que les victimes se connectent à ces sites-là et de leur servir un exploit là, du code malveillant pour prendre le contrôle des visiteurs.
Donc, une attaque très, très ciblée. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez eu à regarder à part celui-là?
Oui, on en a découvert quelques-unes dans le passé. Certaines, on n'en a même pas publié les résultats parce que le gros défi, et c'était le cas dans l'histoire dont on parle, là, c'est qu'on n'a jamais pu mettre la main sur le payload ou sur le logiciel malveillant final. On n'a pas été capable de se faire passer pour une victime. On savait que les sites étaient compromis. On voyait un petit bout une petite redirection, puis on se faisait tout de suite laisser tomber. On a essayé autant comme autant, donc on peut juste spéculer sur qui étaient les vraies victimes. Là, on se doute que c'était au Yémen, juste par le thème des sites web qui étaient impliqués, là, mais on n'a jamais pu savoir vraiment qu'est-ce qu'il en était. Donc, ça arrive là, qu'on va détecter des sites web qui sont compromis, qu'on se doute qu'ils sont impliqués dans une Watering Hole attaque. Mais à part de donner l'information, rapporter qu'il y a un problème au propriétaire des sites web, on ne sait pas c'était quoi le but, on ne sait pas qui était derrière.
C'est beaucoup plus difficile. C'est un peu dans un cas comme NSO, NSO Group pour les iPhones à hacker. On n'a aucune idée qui était en arrière jusqu'à temps que tout explose dernièrement. Là, mais avant qu'il y ait quelque chose de plus clair qui apparaisse, on était un peu dans le néant. Là.
Exact. Puis en fait, tu parles de NSO. Puis dans le cas de l'attaque qu'on a documentée, on soupçonne que les gens derrière l'attaque étaient des clients d'une firme qui s'appelle Candy Roo, qui est carrément un compétiteur à NSO. On soupçonne donc que l'espèce de framework, là, où le produit vendu par Candy Roo, un produit d'espionnage, a été utilisé dans cette attaque-là. Pas exclusivement, donc mais que ça faisait partie de l'attaque comme telle. Donc, on peut se douter là, que c'était extrêmement ciblé, puis c'est des cibles de haute valeur pour l'attaquant là, qui étaient les vraies cibles là, au final.
Bon, ben, on peut supposer que c'est des trousses, des toolkits qui doivent être très, très dispendieux, même comme le chose de NSO devait l'être également, parce que ça va être justement ciblé de façon très, très pointue pour des besoins finalement d'espionnage ou de contre-espionnage, tout dépendant des cas. C'est intéressant de voir que c'est utilisé dans ces contextes-là, puis c'est encore vivant, ces stratégies-là, que ça continue à évoluer, puis c'est un peu épeurant.
Ouais, c'est épeurant, oui. Quand même, quand les attaquants sont très, très patients puis très déterminés parce qu'ils savent qui ils veulent aller chercher, puis c'est des attaques, tu sais, si on pense juste au supply, je dis toujours supply chain, mais c'est watering hole. Si on pense au principe, hein, on met en place des espèces de trappes et on attend passivement que la cible s'y connecte. C'est pas agressif, c'est pas envoyer des courriels avec des pièces jointes malveillantes, c'est vraiment on met les pièges en place puis on attend que la victime tombe dedans. Puis après ça, on voit qu'il y a plusieurs couches. Comme je disais, on n'a pas été capable de retrouver le payload à la fin, donc il y a plusieurs couches qui vont valider qui est le visiteur pour pas révéler le fin fond de l'attaque.
Ouais, c'est très, très intéressant ce qu'on voit dans les stratégies anti-debug pour les malwares plus conventionnels. Eux vont même plus loin que ça. Justement, tu n'es même pas capable de t'approcher du code parce qu'ils t'interceptent avant. Là. C'est fascinant, ce genre de choses-là. Puis je trouve ça très agréable de pouvoir parler à quelqu'un qui a justement travaillé un peu dans la recherche. Il va avoir un thrill aller jouer dans ça.
Oui, en fait, des fois, on oublie un peu dans l'univers dans lequel on baigne, hein, parce que notre quotidien, c'est on est les deux mains dedans du code malveillant, puis on creuse, puis une fois de temps en temps, on se relève la tête et on se dit « Attends un peu, qu'est-ce que ça veut dire ça? » Ça veut dire qu'il y a tel groupe qui est en train d'être ciblé, puis ça se passe maintenant. On réalise dans quoi on est. Mais dans le quotidien, là, des fois, on est juste tellement focusé sur la technique pour essayer de comprendre vraiment concrètement comment l'attaque fonctionne qu'on oublie que ça s'inscrit dans des enjeux des fois beaucoup plus grands, beaucoup plus larges.
Oui, c'est rendu beaucoup plus sophistiqué que ce que c'est l'état. Puis tant qu'à pas de sophistication, là, on va glisser vers APT29, qui dans le fond est un groupe qui utilise peut-être pas nécessairement les wire-on dans ce cas-ci, mais qui utilise une panoplie d'outils pour un peu nuire aux autres.
Oui, APT29, aussi appelé sous le nom de Dukes, Cozy Bear, Microsoft a donné le nom de Nobelium. C'est un groupe qui est actif depuis très, très longtemps. Probablement qu'ils sont les plus connus pour leur attaque contre le comité, le DNC, là, le comité ou le Parti démocrate américain lors des élections de 2016. Donc, c'est un groupe qui opère pas de façon constante. On voit des grandes périodes où est-ce qu'ils sont inactifs. On a vu là, à l'automne dernier qu'ils ont... Ils ont repris du service, ils se sont mis à envoyer des courriels de phishing à des diplomates européens. APT29, là, ils n'ont aucun espèce d'intérêt pour le gain financier. C'est du cyberespionnage exclusivement ou des opérations un peu comme l'attaque aux États-Unis. On peut discuter si on veut des vrais motifs derrière cette opération-là. Mais donc, c'est vraiment de l'espionnage. On parle de cibles comme des missions diplomates, des employés des ministères des Affaires étrangères, un peu partout dans le monde. Ils ont repris du service.
Oui, c'est ça, clairement, un groupe qui est financé par par un État là, pour faire ce genre de choses-là, parce que sinon, ce sont pour l'argent. Fait que c'est un ou c'est l'autre. Dans ce cas-ci, ben là, de leur nom, je suppose que c'est un groupe qui est de nationalité russe, ou en tout cas, bref, que ses racines principales en Russie.
Oui, mais en fait, il y a plusieurs organisations qui ont attribué ce groupe-là de près ou de loin, ou plutôt de près au gouvernement russe. Nous, on reste prudent, ou en fait, on ne se mouille même pas dans l'origine des groupes qu'on étudie. Parce qu'on n'a pas toute l'information. On est vraiment au niveau de comment le groupe opère d'un point de vue opérationnel, comment leurs attaques fonctionnent d'un point de vue technique. Et c'est comme ça qu'à nous, on attribue une attaque. On dit cette attaque-là qu'on vient de détecter, on l'attribue au groupe XYZ parce qu'elle partage des caractéristiques communes à d'autres attaques, puis on les a mis en cluster ensemble. Ensuite, quand on regarde au niveau de ce groupe-là, vient de où, est financé ou coordonné par qui, ça, on laisse ça aux autres. C'est principalement les gouvernements qui ont vraiment les moyens de contre-vérifier puis dire ce groupe-là est à la solde d'un pays, mais ça semble être largement accepté que sont liés au gouvernement russe.
Est-ce que ça arrive que des groupes qui vont s'imiter entre eux autres, enfin, qui vont brouiller la piste de qui ils sont et vont pointer vers un autre?
Oui, ça s'appelle des false flags. Ça arrive, oui. Je pense que le cas d'école pour des opérations de false flags, c'est une opération qui s'appelle Olympic Destroyer, où est-ce que les attaquants ont fait carrément exprès, là, c'était même pas subtil, là. Il y avait mélangé là, des indicateurs ou des techniques utilisées par des 4 ou 5 groupes là, très, très bien connus. Je pense que c'était juste pour troller un peu les chercheurs. Là. Mais c'est quelque chose qui est important à garder en tête, par exemple, parce que tout ce qu'on analyse comme chercheur en logiciel malveillant ou quand on analyse une attaque ou une intrusion, tout ce qu'on voit, c'est de l'information qui a été contrôlée par l'attaquant. Toutes les traces, c'est l'attaquant qui les a laissées. Il peut les avoir laissées par inadvertance, ça arrive, mais il peut aussi les avoir laissées de façon stratégique pour nous guider dans une certaine direction. Donc, c'est pour ça qu'avant de tirer des conclusions sur c'est qui, comment, pourquoi, le motif et tout, là, moi, et en fait, la directive là, dans mon équipe et même dans la compagnie chez ISET, c'est on ne tire pas de conclusion hâtive. Soyons conscients des limites de l'information à laquelle on a accès. On peut décrire les faits, ce qu'on a observé, mais avant de tirer des conclusions fortes, il faut être capable de corroborer l'information de façon indépendante. Puis ça, c'est rarement dans notre mandat. Mais voilà, avec oui, des false flags, là, ça arrive, il y en a. Puis des fois, on le sait, puis des fois, on ne le sait même pas.
Fort probablement. Puis en PT29, as-tu fait d'autres activités que ceux que tu as mentionnés?
Récemment, non. En fait, on suspecte ici et là, mais rien de majeur depuis ce temps. Donc, c'est le genre de groupe qui... tu sais, pourquoi on est capable de les suivre à la trace, c'est que leur modus operandi ne change pas de façon drastique entre leurs attaques. Ce qu'on appelle du retooling, là, qui est une opération où est-ce qu'un groupe d'attaquants va tout laisser tomber ses outils, ses logiciels malveillants, puis en refait une nouvelle collection. APT29 ne fait pas ça. C'est très, très coûteux, évidemment, hein, faut tout se développer. Mais quand ça arrive, des fois, on va perdre la trace complètement d'un groupe parce qu'ils ont fait ça. On perd la trace pendant des mois, des fois des années, puis à un moment donné, on trouve quelque chose, on dit « Oh, ils ont laissé un petit détail », puis là, on est capable de reconnecter les deux ensemble puis de dire « Bah, ben voilà, finalement, ils s'étaient juste retoolés, puis on reprend le tracking. » Donc, on est capable de suivre APT29 quand même relativement bien, là, puis ils tiennent tranquille.
Ah ben là, j'aurais pensé que ces temps-ci, au-delà du rapport de menaces que vous avez produit, qu'il aurait été peut-être un peu plus actif dans les dernières semaines ou derniers mois, là, étant donné leur affiliation. Là, mais ça se peut que justement par leur affiliation, on les voit justement moins qu'on aurait peut-être dû les voir normalement. Là. Passons à un autre sujet, puis un autre grand sujet, là, c'est le rançon logiciel, le ransomware, qui est finalement la plaie et le malheur dans lequel on vit à l'heure actuelle. Vous avez quand même une bonne analyse là-dessus, là, fait que je vais te laisser présenter un peu ce qu'il y en est là.
Oui, ben les rançons logicielles, c'est pas nouveau, puis c'est payant pour les attaquants et c'est pas prêt de s'en aller. Hein. Si j'avais te demandé, penses-tu que on a vu une diminution des attaques aux rançons logicielles? Je pense bien que tu me dirais sûrement pas. Ben c'est le cas. En fait, dans le fond, nous, on génère des statistiques régulièrement, à chaque fois qu'on fait nos threat reports. Puis, on est capable de comparer entre deux périodes les détections de différentes catégories de logiciels malveillants. Donc, on est capable de voir chez nos clients, est-ce qu'on a vu plus ou moins de détections au niveau des rançons logicielles. Puis, ça n'arrête pas d'augmenter pour les rançons logicielles, en fait, pour la plupart des catégories de logiciels malveillants. Des fois, il y a des nouvelles familles qui émergent ou qui prennent le dessus. Mais peu importe, là, à chaque période, là, c'est en constante augmentation.
Oui, ben, je vois un peu dans la liste là, de statistiques que vous avez justement dans votre rapport. Là, c'est effectivement, j'en reconnais certains. Là, moi, je suis plus familier de me battre avec Trickbot, Emotet, Erieux, qui sont ceux avec qui ils m'ont causé le plus de soucis jusqu'à présent. Mais faut pas se limiter à ça parce que ça n'est que des outils utilisés par des malveillants et qui sous-loupent. C'est tout le problème des rançons logicielles. C'est tous des toolkits qui sont loués en plus.
Oui, c'est ça. Ransomware as a service. Et il y a aussi l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas mal interpréter nos statistiques parce que je parle bien de détection. Hein, fait que ça veut dire, sur un poste de travail, on a vu et bloqué ce rançon logiciel-là. Mais il ne faut pas mélanger ça avec l'impact ou la gravité hein, d'une infection. Donc, ce n'est pas parce qu'on voit plus de WannaCryptor chez nos clients que c'est le logiciel, le ransomware qui est qui a le plus d'impact au niveau, disons, financier. Il y a différents ils ont différents objectifs. Il y en a certains qui vont aller chercher un peu n'importe quoi, n'importe quelle organisation, n'importe quelle personne à la maison, demander des petites rançons. Tu as aussi les groupes qui vont choisir moyenne, grande entreprise, puis ils vont aller demander des millions en rançon.
Oui, ben c'est ça. C'est tous ces outils-là sont utilisés à différentes fins. Là. C'est très intéressant. De toute façon, ceux que vous avez dans votre liste, c'est tout du Windows. Est-ce que vous avez vu dans Mac un peu aussi?
Dans Mac, ça fait très longtemps. Un rançon logiciel pour Mac, ça fait... Écoute, ça doit faire des années qu'il n'y en a pas eu de nouveau en activité. Mais c'est une bonne question. Hein. Les logiciels malveillants sur Mac, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, en fait, comparé à Windows, de loin. Ce qu'on trouve le plus sur Mac, c'est du adware. On en trouve du beaucoup plus sophistiqué sur Mac que sur Windows. En fait, c'est vraiment fou les techniques qui sont utilisées, les techniques de persistance qui sont utilisées par les logiciels de type adware pour Mac. Là, c'est assez phénoménal.
Oui, mais c'est parce qu'en même temps, les utilisateurs de Mac se croient justement invulnérables. Fait que, tu sais, ils ont moins de tendance à avoir un antivirus ou prendre des mesures qui sont... disons, adéquates pour protéger leur machine et ils vont accepter plus facilement. Ça, en Mac, en plus, ça demande l'autorisation. Voulez-vous vraiment exécuter le logiciel? Oui. Puis les gens vont s'infecter. Là. Je trouve ça assez fascinant. Ça me permet de glisser vers iOS, tant qu'à rester dans la même famille de manufacturiers. Vous avez vraiment un pan de mur qui parle justement de ces éléments-là qui sont quand même non négligeables parce que il s'attaque beaucoup à cette plateforme-là. On l'a vu avec le NSO, entre autres, qu'il l'a fait, mais c'est pas dans les mêmes perspectives qu'on a comme on va trouver sur un poste de travail, par exemple.
Non, c'est beaucoup plus rare, les menaces sur iOS. Pour quelques raisons. En fait, si on compare iOS puis la plateforme Android, hein, ces deux plateformes mobiles, ces deux plateformes propriétaires, une qui est gérée par Google, l'autre qui est gérée par Apple. Et la plateforme iOS, c'est beaucoup plus difficile de rentrer du logiciel malveillant dessus, entre autres parce que les mécanismes de sélection du App Store de Apple sont beaucoup plus rigoureux. Donc, ils rejettent beaucoup plus d'applications que Google. Et ensuite, ben pour pour pouvoir exécuter du code sur un device iOS, en général, là, ça prend des exploits. Il faut trouver des vulnérabilités. Et souvent, c'est des chaînes de vulnérabilités pour bypasser plusieurs couches de sécurité. Et ça coûte très, très cher. Donc, pour avoir un retour sur l'investissement, disons qu'il faut que l'attaquant veuille vraiment, vraiment rentrer sur un téléphone. Et là, tu parles de NSO et les autres compagnies spécialisées là-dedans, mais c'est leur business model. Ils vont soit développer ou acquérir des exploits, puis ensuite, ils vont permettre à leurs clients de les utiliser pour infecter leurs victimes. On a vu d'autres types, par contre, de façons, d'autres portes d'entrée. Dans le cadre d'une entreprise, si on veut pousser une application maison sur des téléphones iOS, c'est des applications qui ne sont pas sur l'App Store, c'est des applications custom. Mais il y a une façon légitime de gérer un parc de téléphones iOS. Puis en gros, là, sans rentrer dans les détails, c'est que l'entreprise va installer un certificat spécial dans le téléphone. Puis ensuite, le téléphone va accepter d'installer des applications signées par ce certificat-là. Puis tout va bien. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des points de distribution d'applications, faites des applications custom. Il y a même des applications piratées. Là, on peut penser, disons, à YouTube, là, une application YouTube modifiée qui permet de télécharger le vidéo. Donc, ce n'est pas permis dans l'application normale. Et donc, ces espèces de points de distribution-là, ben, ils offrent leur certificat. Puis les gens l'installent dans leur téléphone. Puis après ça, ils peuvent installer les applications. Donc, ça ouvre la porte à installer n'importe quoi, dont du logiciel malveillant. On n'a pas encore vu de cas généralisé qui utilisait cette technique-là, mais on le surveille parce qu'on, à mon avis, c'est une question de temps avant que ça arrive.
Très intéressant, tu mentionnes ça, parce qu'Apple, en plus, est en débat judiciaire avec plusieurs gouvernements sur ce qu'on appelle le sideloading, c'est-à-dire d'être capable de charger des applications à côté de son App Store officiel. Mais en même temps, tu me dis, il y en a effectivement des moyens et sont malheureusement utilisés par des gens qui sont potentiellement malveillants. Donc, un peu, ça donne un peu raison à Apple, en quelque sorte, pour leur modèle d'affaires, là, peut-être pas à 100%, parce qu'on peut débattre un peu de l'idée en arrière de ça. Puis, tant qu'à faire ça, on va basculer à Android, qui est l'autre plateforme mobile, qui a des défis très différents par rapport au iOS, justement, qui est un peu plus souple dans son store et qui est beaucoup plus souple, justement, sur le side loading, sur la capacité des gens de se tirer dans le pied.
Voilà, les philosophies s'opposent. La philosophie d'Android, c'est de Google plutôt, c'est d'être très, très ouvert. Il y a moins de restrictions, entre autres, sur des applications qui ont la même fonctionnalité. Si tu cherches une application, disons, pour lire un code QR dans le Play Store de Apple, de Google, tu vas en trouver une panoplie. Mais si tu fais la même recherche sur l'App Store d'Apple, il n'y en aura pas beaucoup. Donc, il y a moins de duplicité de fonctionnalités au niveau des applications. Il y a juste beaucoup, beaucoup d'applications qui rentrent dans le Play Store. Ceci étant dit, Google s'est vraiment amélioré dans les dernières années. À leur crédit, là, ils ont investi beaucoup dans leur le Google Bouncer là, qui fait l'espèce de filtre de ce qui est accepté dans le Play Store. On a même chez iSET, on a un partnership avec Google pour gérer ou pour donner notre avis, disons, sur les nouvelles applications qui rentrent. Malgré tout, il en passe beaucoup. Des logiciels soit qui vont se monétiser là, avec la publicité ou autre truc.
Ouais, c'est vraiment, c'est beaucoup. C'est très difficile le modèle. On ouvre à tout et on scanne après. Là. C'est un peu comme le modèle du blacklist des antivirus classiques d'il y a quelques années là, où ça devient c'est une course sans fin versus ce modèle qu'Apple a un peu plus pris où pas parfait, mais quand même qui limite plus et plus dans du whitelisting qui t'autorise, mais pas tout. C'est un peu très intéressant. Ça faisait le tour des sujets que je voulais aborder là-dessus, parce que sinon on en aurait probablement pour des jours à en parler de tout le contenu. C'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce genre de rapport-là, puis que iSET participe, comme plusieurs autres aussi, justement à contribuer à augmenter la connaissance de tout le monde. sur ce genre d'éléments-là. J'ai beaucoup aimé lire ce rapport-là. Fait que je te remercie énormément de ton temps pour justement être venu partager quelques bribes avec nous.
Avec plaisir. À la prochaine.
Prochaine.